ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Didier Foucault. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation à venir parler de vos convictions, de votre travail. Vous êtes historien à l'Université Jean Jaurès, en fait émérite depuis 5 ans, mais très actif dans l'édition, la publication d'une petite collection qui s'appelle « Cette année-là à Toulouse ». Nous reviendrons sur cette petite collection extrêmement intéressante pour vulgariser les travaux des historiens. Mais je vous ai demandé de venir pour parler du 8 mai, puisque c'est une date, faut-il commémorer, faut-il se souvenir? Et c'était il y a également 4 ou 5 ans, vous étiez venu dans un dialogue à l'Institut catholique avec une petite association qui s'appelle le service Incroyance et Foi, nous parler de Vanini. Donc ça, c'est toute une partie de votre travail. Alors, merci donc d'être venu.
Merci de m'avoir invité aussi.
Et je commence à demander à mes invités, vos convictions, vous les avez acquises petit à petit, et votre carrière universitaire, dites-nous deux mots s'il vous plaît.
Voilà, donc les deux choses je dirais sont peut-être liées, mais elles sont bien sûr différentes. Mes convictions, puisque là on est surtout je pense à partir des problèmes liés à la religion, j'ai reçu un minimum d'enseignement catholique, mais assez tôt, je m'en suis détaché parce que je n'avais pas l'évidence de la foi je suis resté sur ces positions en essayant, je dirais, de structurer ma façon d'être, ma façon de penser, mon comportement aussi en société sur le rapport aux autres hommes, aux femmes, quels qu'ils soient, de quelques origines qu'ils soient, de façon à essayer de vivre pacifiquement, de vivre dans des conditions convenables pour tous.
En bonne intelligence avec toutes les croyances peuvent exister sous le ciel.
Mais bien sûr, parce qu'autrement, on s'aperçoit malheureusement, aussi bien l'histoire nous l'apprend que malheureusement aussi le présent, que lorsque une conviction veut s'imposer par la force aux autres, d'une part, elle ne convainc personne, ce qui ne règle aucun problème fondamentalement, et surtout, ça occasionne beaucoup de malheurs. Donc, si on peut essayer d'éviter cela, je crois que c'est une bonne chose pour tout le monde.
Alors, ressasser des conflits, ça peut être mauvais pour la bonne ambiance d'une société, mais en même temps, oublier, ça peut créer des blessures aussi compliquées. Donc, il y a pour l'historien une sorte de ligne de crête entre deux tendances. Et puis, actuellement, nous savons que l'histoire, que ce soit le colonialisme, que ce soit la laïcité, aborde toute une série de débats, non seulement chez les historiens, mais la relation entre l'histoire, la philosophie et peut-être la théologie.
Alors, effectivement, là, toute une série de questions sont posées. Oui. En tant qu'historien, je dirais que je suis naturellement, professionnellement tourné vers le passé, pour essayer de comprendre avant tout le passé et me semble-t-il aussi le faire connaître, et c'est aussi un des objectifs par exemple de cette petite collection dont vous parliez, pour le faire connaître à l'ensemble de nos concitoyens. Je ne pense pas que l'oubli ça soit une bonne chose. D'abord parce que nous sommes les héritiers d'une culture, d'une civilisation et je pense qu'il faut connaître l'histoire de cette culture, cette civilisation pour pouvoir la faire continuer dans le présent et dans le futur, et ensuite parce que malheureusement, l'histoire des hommes, de quelque société, de quelque culture, de quelque civilisation que ce soit, est aussi faite de drames, et si l'on réfléchit aux conditions qu'on conduit à ces drames, peut-être, sans vouloir être trop exagérément optimiste, peut-être peut-on essayer d'éviter de retomber dans les mêmes travers. Et par exemple, vous évoquiez le 8 mai, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire nécessairement une commémoration militariste du 8 mai, ça n'a pas beaucoup de sens, mais malgré tout, ça a été un drame terrible pour notre société, pour la France, pour l'Europe, pour le monde entier, avec des catastrophes absolument abominables. Et je crois qu'il est important que l'on se rappelle cela, qu'on essaie d'y réfléchir, et que tous ensemble, on essaie peut-être d'éviter de retomber dans le même travers.
Ça veut dire hiérarchiser, ça veut dire chercher des causes, Et c'est là où les historiens, en fonction de leurs sources, ne seront pas forcément d'accord. Et puis d'autres vont essayer de, peut-être de dire, de condamner, alors que d'autres essaieront de mettre à plat avec un double regard de chacun des partenaires, mais aussi le souci d'éviter tout manichéisme.
Oui, de toute façon, en tant qu'historien, je crois que nous avons une déontologie qui est de ne pas essayer d'instrumentaliser notre objet d'étude à des fins idéologiques, politiques, religieuses ou quoi que ce soit d'autre. Le passé est le passé, de toute manière, on ne reviendra pas dessus. Ce qui est important, je crois, c'est essayer de le comprendre le mieux possible en s'appuyant sur ce qu'est, je dirais, l'instrument principal qui permet aux historiens de travailler, c'est-à-dire en s'appuyant sur les archives, en s'appuyant sur les sources et en essayant de les interpréter avec le plus de neutralité, le plus de rigueur, le plus d'objectivité possible. En sachant bien sûr que dans l'idéal, on n'arrivera peut-être pas à atteindre ce but, mais au moins... tendre vers cela le plus honnêtement possible, sans essayer de vouloir récupérer à des fins quelconques, avant même d'avoir travaillé la matière historique, si je puis dire, sans essayer de récupérer cela pour avoir déjà les réponses avant d'avoir fait les recherches.
Alors, 1619, c'est l'année où Vanini... Vous citez, ou plutôt en sous-titre, « Un libertin sur le bûcher ». Nous sommes bien avant les guerres de religion.
Après.
Inquisition,
juste après.
Et
oui.
C'est ça. Et donc, pourquoi avoir choisi ce libre penseur ou ce penseur libre,
oui.
Et dans le conflit très dur, puisqu'il va perdre sa vie avec le dogme ou avec l'Église?
Alors, la première question que vous me posiez, c'était mes convictions.
Pourquoi ?
Voilà.
Oui.
C'est vrai que au départ, j'avais appris qu'un athée, un libertin, avait été brûlé à Toulouse, que c'était un philosophe et qu'il s'appelait Vanini. Et donc, par curiosité, sans y repenser pas autre, j'ai essayé de lire des choses sur lui. Et je me suis aperçu que c'était un auteur assez difficile, et qui plongeait dans un univers mental très différent du nôtre, et que si on pouvait le qualifier d'athée, ce qui n'était pas du tout évident au départ pour moi, il fallait d'abord essayer de comprendre ce que signifiait pour lui cet athéisme, et surtout pas essayer de projeter sur 4 siècles en arrière ce que nous avons aujourd'hui en tête lorsque nous pensons la religion, l'incroyance, etc. Donc, c'est-à-dire se replonger dans un univers mental très différent du nôtre pour essayer de comprendre ce qui a pu conduire cet homme à un temps où la plupart de ses concitoyens... je dirais ses concitoyens, on n'était pas encore à un stade citoyen. La plupart des personnes qui vivaient, de ses contemporains, étaient des croyants et pouvaient même s'affronter très durement pour les croyances, puisqu'on sort tout juste des guerres de religion. Elles reprennent même un peu dans les années 1620, donc peu après sa mort. Comment un homme a pu s'éloigner autant de l'opinion commune qui était celle de la croyance, et notamment dans nos régions, de la croyance dans le christianisme?
Alors, l'une des raisons principales de sa condamnation, c'est la notion de blasphème, à un moment où il y avait un roi, une loi, une foi.
Oui.
Et
alors c'est un peu plus compliqué.
Le mot blasphème, que... actuellement, a un autre sens peut-être qu'à ce moment-là.
Alors, un roi, une foi, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on est à la période d'application de l'édit de Nantes.
Oui.
Donc, on a une période de paix relative entre catholiques et protestants, où le protestantisme est admis en tant que conviction, croyance dans la société française.
Mais après la révocation.
C'est avant. C'est, même si l'édit de Nantes, c'est 1598 et la révocation, c'est 1685. Donc
c'est
là, on est sous Louis XIII et la révocation, c'est sous Louis XIV. Donc là, on est juste après la mort d'Henri IV, dans une période où le protestantisme est toléré en France et est admis. Il y a des cultes protestants, il y a des ministres, des généraux protestants, des personnes qui appartiennent à la cour et qui sont de confession protestante. Donc on a une tentative, en quelque sorte, de coexistence pacifique. Ça durera malheureusement pas très longtemps, mais c'est ce contexte. Donc, c'est quand même un élément important. Ceci dit, les protestants sont des croyants, des chrétiens. L'athéisme, à cette époque-là, n'était pas du tout admis. Et le blasphème était, pouvait être condamné à mort, ce qui a été d'ailleurs le cas pour Vanini, quoi.
Le fait d'enlever son chapeau devant une procession, ce sont des gestes comme ça où on montre que l'on n'est pas d'accord avec la majorité des sujets.
De garder le chapeau.
C'est ça.
Oui. Alors, c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs les libertins, d'où le titre de mon livre, les libertins qui ont été un courant comme ça de contestation vis-à-vis aussi bien des croyances que des mœurs aussi. Que l'Église, on est à l'époque de la contre-réforme, avec un certain rigorisme moral et de comportement. Donc les libertins s'opposent à cela, et Vanini fait partie des penseurs qui ont inspiré les libertins du XVIIe siècle, de l'époque par exemple de Don Juan de Molière, qui est un exemple type de ce libertinage. Ce sont des personnes qui avaient soit lu, soit entendu parler de Vanini, et ça en était un peu inspiré, quoi.
Alors, nous sommes dans une période où le coronavirus fait poser un certain nombre de problèmes, tant à l'État qu'à certains citoyens qui ont peur. Mais à peu près à la même époque, d'ailleurs, il y a une petite collection qui, dans votre collection cette année-là à Toulouse, le livre de Sylvie Mouisset, 1628, La peste ou la mort aux trousses. Donc, je crois que tout cet environnement pose question.
C'est intéressant pour un historien de vivre ce que nous vivons depuis à peu près un peu plus d'un an maintenant, parce qu'effectivement, pour des gens qui ont travaillé sur la peste, ce qui est aussi mon cas, Sylvie Mouisset qui avait déjà travaillé sur la peste, vient de faire une petite synthèse sur cette peste de 1628, elle a duré en fait 4 ans, de 1628 à 1632, elle a été très meurtrière et a concerné une grande partie de l'Europe. Et elle s'est répandue, entre autres, parce que l'Europe était en guerre. C'était la guerre en Allemagne, la guerre de 30 ans, qui embrasait une grande partie du centre de l'Europe, en débouchant un peu aussi sur la vallée du Rhône, sur l'Italie du Nord. Et puis aussi, il y avait en France un début, en 1628, donc un début de... Enfin, plutôt une fin de guerre de religion, puisque c'est l'époque, par exemple, de la prise de La Rochelle, tenue par les protestants. Et donc, il y a des circulations entre les Cévennes, la région parisienne, la Saint-Onge et le Poitou, etc. Et ces troupes transportent le virus, le bacille de la peste. Et il y a une épidémie, une pandémie même considérable, avec des dizaines et des centaines de milliers de morts sur l'ensemble de l'Europe. Donc on est dans un contexte un peu voisin à celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est assez intéressant de faire le parallèle.
J'ai une question par rapport à l'actualité, justement, du souvenir. Puisque vous avez été l'un de ceux qui a permis que, à la place du Salin, il y ait une plaque commémoratrice. Et la plaque signale, d'ailleurs, elle est sur le site, puisque nous avons besoin d'une photo ou d'une image pour matérialiser notre débat, notre dialogue. Et vous avez mis sur cette plaque « Hommage aux penseurs précurseurs des Lumières ».
Alors, c'est pas moi qui rédigeais cette plaque.
Ah, bah écoutez, non, c'est vous quand même qui en êtes avec Marc Blondet, l'un des...
Je fais partie des personnes qui avaient sollicité la mairie pour qu'il y ait un lieu de mémoire.
C'était en 2008.
Voilà, oui.
Et pourquoi cette année-là? Et ça demande de tout un travail.
Ça s'est fait... Il y a eu des rencontres dans les années 2000 qui ont fait que l'idée a surgi, et puis il y a eu des contacts divers avec la municipalité qui a abouti à la mise en place de cette plaque. Parce qu'effectivement, c'est quand même important qu'il y ait un lieu où on commémore les épisodes tragiques de notre ville, comme il y a... sur
le souvenir de la guerre.
Voilà, puis le souvenir de Calas aussi. Enfin,
exactement. Voilà. D'ailleurs, c'est nommément appelé victime de l'obscurantisme. Donc, c'est là où il est intéressant que vous nous rappeliez peut-être ce débat entre la philosophie, la théologie. C'est quoi l'obscurantisme lorsqu'on l'oppose aux Lumières?
Alors, voilà,
c'est de la philosophie, c'est plus que de l'histoire.
Voilà, l'obscurantisme, c'est une notion surtout qui est développée au XVIIIe siècle, après la période de Vanini, un siècle environ après. Et c'est en fait, ça s'oppose à l'idée des lumières, en sachant que le mot lumière a longtemps été utilisé par le christianisme, hein, c'est les lumières de la foi, la lumière de la foi, et à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, c'est récupéré par les philosophes pour opposer à la foi, qui désormais représente l'obscurité, la lumière de la raison. Hein, c'est l'origine de ce mot, et c'est vrai que les personnes qui sont évoquées comme
Étienne Dolé,
Michel Servet,
Giordano Bruno.
Et Giordano Bruno aussi, tous sont passés par Toulouse, c'est pour ça aussi qu'ils sont évoqués, et tous malheureusement ont fini sur le bûcher. Ces penseurs méritent malgré tout qu'on se rappelle de leur combat et aussi malheureusement de leur fin tragique.
Alors, ils préfiguraient la raison. Il y a toute une réflexion pour savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être raisonnable par rapport à ceux qui croient en des dogmes et qui peut-être mettent leur vie dans ce chemin de la tradition. Il y a une tradition pour la raison.
Oui, alors, oui, une tradition qui remonte, on peut dire, à la Grèce ancienne, hein, puisqu'on fait apparaître le début de la philosophie moderne, ou en tout cas classique, au 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Socrate, de Platon, un peu plus tard d'Aristote et quelques autres. Il y a effectivement cette tradition d'essayer de penser le monde avec sa raison, et pas simplement avec la croyance en des divinités ou des forces surnaturelles qui commanderaient le cours des choses, le cours du monde, voire le cours des sociétés et la conduite des hommes.
La raison n'est pas que matérialiste. Il peut y avoir une spiritualité ou une réflexion pour savoir qu'est-ce que l'homme et d'où est-ce qu'il tire son énergie ou est-ce qu'il tire sa volonté de vivre, qui ne soit pas une volonté de puissance.
Oui, de toute façon, il y a tout un courant de la pensée religieuse qui essaie d'articuler foi et raison, théologie et philosophie. On peut parler de Thomas d'Aquin, par exemple, qui est dans ce courant, et qui s'oppose aussi à un autre courant qui est plus mystique et qui rejette plus l'approche rationnelle au profit d'une fusion de l'âme avec la divinité. Mais disons que la différence qu'il y a entre un matérialisme rationaliste et puis, je dirais, un christianisme qui s'appuie sur la raison, ou une autre croyance qui s'appuie sur la raison, c'est qu'il n'y a pas quand même le primat d'une force surnaturelle qui viendrait expliquer une partie, soit de la création du monde, ou même du cours de l'histoire, ou du destin des hommes aussi, à travers l'idée, par exemple, de providence.
Alors pour ça, la musique peut être un bon moyen de peut-être prendre du recul par rapport à tout ce qui est trop rationnel ou tout ce qui est de l'ordre du discours. Et vous nous avez apporté une musique de cette époque un peu.
Voilà, oui, c'est de Monteverdi, donc, qui est un compositeur du début du XVIIe siècle, donc contemporain de Vanini. Et c'est un madrigal d'amour qui s'appelle « Le Lamento della Ninfa ». L'alimentation de la nymphe, qui est un chant d'amour et aussi un peu de déploration, que je crois très beau.
Alors nous l'écoutons, merci.
Amor, amor, dove la fine?
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Didier Foucault, vous êtes professeur d'histoire, émérite à l'Université Jean Jaurès et directeur de la collection Cette année-là à Toulouse. Et nous parlons de vos livres, mais aussi de votre thèse en histoire sur Vanini. Et vous nous avez évoqué cette musique. Alors, ma question, c'est, je lis ce qui est marqué sur la plaque commémorative de Guido Cesare Vanini. La matière du ciel n'est pas différente de celle de l'homme ou du scarabée. Nous sommes en plein matérialisme, ou bien il y a une réflexion par rapport à la raison humaine, cet homo sapiens?
Chez Vanini, il y a les deux. Il y a un effort justement pour essayer de penser le monde dans sa matérialité, c'est-à-dire l'univers, le ciel, la terre, la vie sur terre, de penser cela en faisant abstraction d'une intervention surnaturelle, d'une intervention divine. Donc postuler l'éternité du monde, l'éternité de la matière, et aussi l'unité de la matière, d'où cette phrase qui assimile aussi bien la matière du ciel, qui n'oublions pas, dans la pensée ancienne, était considérée comme étant différente de celle que l'on trouvait sur Terre, et puis marquer aussi qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre la matière vivante et la matière inerte, entre la matière terrestre et la matière céleste. Donc c'est une volonté de penser le monde à travers une matière unique qui, bien sûr, se développe, prend des formes diverses, mais ne dépend pas d'une force immatérielle, d'une force surnaturelle.
Avec aussi le débat sur la pensée d'Averroès plutôt que celle de Saint Thomas, puisque Vanini s'inspirait beaucoup de cette pensée des anciens.
Voilà, Averroès, effectivement, c'est un penseur arabo-musulman qui vivait en Andalousie et qui a été un grand commentateur d'Aristote. Et vous savez qu'au XIIIe siècle, il y a eu une récupération dans les universités naissantes de la pensée d'Aristote. Et dès le XIIIe siècle, il y a eu des débats entre ceux qui voulaient récupérer l'aristotélisme dans une fin apologétique chrétienne, comme par exemple Thomas d'Aquin, et puis un courant qu'on a appelé averroïste. Alors est-ce que c'était de vrais averroïstes, des disciples fidèles d'Averroès?
Avec l'islam.
Ça peut se discuter, bien évidemment. Oui. Mais en tout cas, des gens qui se référaient à Aristote plutôt à partir de la lecture d'Averroès, par exemple en distinguant des notions comme l'éternité du monde, qui n'était pas compatible, bien sûr, avec le christianisme.
On pourra en parler pendant des heures, mais je voudrais que vous reveniez sur cette collection cette année-là à Toulouse. Et puis surtout, juste un exemple, parce qu'il y a Jean-Marie Payet qui a évoqué, puis bien d'autres historiens, mais le petit livre de Jean-Claude Meyer, 1791, deux évêques pour une même cathédrale. Ça intéressera justement particulièrement les Toulousains.
Oui, alors voilà, Jean-Claude Meyer qui rédigé une thèse il y a déjà quelques années sur l'Église et la Révolution en Haute-Garonne, donc a accepté de nous faire ce petit livre qui montre le conflit qui a surgi en 1791 lorsque la constitution civile du clergé a été adoptée Et ensuite, lorsque une partie des catholiques ont voulu rester fidèles à leur ancien évêque, donc en fait, il y a eu conflit de deux évêques sur une même cathédrale pour diriger les croyants.
Alors, on ne peut que renvoyer les auditeurs
Bien sûr, oui.
À cette petite collection, puisqu'il y a pour chaque année une série de spécialistes.
Une vingtaine de titres là, qui ont été publiés, effectivement,
et
depuis la préhistoire jusqu'à nos jours.
Non pas vulgariser au mauvais sens du terme, mais apporter leur réflexion sur tout l'intérêt qu'il y a de commémorer non seulement les drames de l'histoire, mais aussi des moments extrêmement intéressants lorsque Toulouse devenait non plus le centre du pouvoir d'un royaume dit barbare, ou bien lorsque l'armée romaine s'empare de Toulouse et bien d'autres. Mais vous avez déjà le projet de vous orienter vers Bordeaux et Strasbourg.
Strasbourg et Nantes aussi.
Eh bien, nous aurons sûrement l'occasion de vous inviter une autre fois. Merci,
Très volontiers.
Didier, pour
Merci
être venu nous parler de vos convictions.
Au revoir.